Tai kaip dėl poezijos?
La poésie alors.
Et la poésie alors?
Et la poésie alors?
Bienvenue dans Et la poésie alors. Est-il besoin aujourd'hui d'introduction, d'introduire les contes bleus du vin de Jean-Claude Pirotte? Peut-être en disant ceci, sortez un verre et une bouteille. Vous en aurez très certainement envie. Abîme. Je vous parle des abîmes de Nyon. Dante, sans doute, a rêvé ce paysage dans l'automne tourmenté. Sur les parois, la neige déjà s'accroche. De la montagne effondrée semble jaillir un grand vent qui grince et tourbillonne. Les abîmes exigent de l'homme un langage plus âpre, une pensée plus rugueuse. On dirait que la mort veille entre les pans d'immenses roches éboulées. On dirait que la mort veille sur le plateau déprimé que les ceps racornis, privés de leur dernière lueur rousse, habitent obstinément dans l'effroi du prochain hiver. Je vous parle des abîmes, je vous parle d'un enfer sans flamme, un enfer glacé, que l'homme maigre et sec arrache d'âge en âge à sa nature d'enfer. Je vous parle avec pompe des abîmes, car ce territoire balance entre l'emphase et le silence, entre la rigueur et l'échevellement. C'est ici la porte de l'exil, l'est d'Éden. Mais le souvenir tenace de l'Éden, on croirait en effet que ce souvenir seul inspire à la sève les cycles de son élan. L'altesse et le chasselas, le jacquère et la mondeuse blanche, la petite Sainte-Marie et le gringet défient la montagne. Et l'on raconte que l'altesse fut rapportée de Chypre par un croisé qui la planta dans le sol le plus rude et le plus aride, au cœur du chaos, à la grâce de ce dieu dont il portait la croix. Et l'altesse donna le vin blanc, le plus vif et le plus fruité, pour faire la nique au diable qui secouait la montagne. Depuis ce temps, la roussette de sa voix fait danser les filles qui se moquent du diable, et c'est, dit-on, les soirs de bal et de tempête, que le diable impuissant pleure et mendie un verre de vin frais des abîmes.
Thank you.
cornes d'or. Pour Ramiz et Turgut. J'avais décidé ces jours-ci de traînasser au fin fond des provinces. Et voilà que je me retrouve en Turquie. En Turquie, allons donc, c'est une galéjade. Non, ça n'arrive qu'à moi, ce genre d'imprévu, mais ça m'arrive bel et bien. Et tel crépuscule du soir, où j'avais rêvé d'un apéritif en forme de pupillin rosé, dans la taverne de Blétéran où officie mon copain Maurice, avec la toile de fond du Revermont délicatement enneigée, je m'installe en réalité sous les solives du meilleur Lokanta de Constantinople, celui de Rahim Kosova, non loin de la Londra Asphalti, alors qu'une houle mauve et rouge balance les rafiaux à l'horizon de la mer de Marmara. Comment éviter de me réciter l'arbo ? Oh, demain, le lever du jour sur les rivages, et dans mon cher cœur plein de cloches, à l'infini les côtes de l'Empire ottoman, roses et vertes, aux ondulations douces, où se cachent des villages couleur de la terre et de vieilles forteresses. Tandis que Rahim lui-même s'approche de notre table et règle l'ordonnance du festin que m'offrent mes incomparables amis d'Istanbul. Que défilent donc les délices de Byzance, les salades fraîches encerclant de couleurs vives les fromages de brebis, les olives fourrées, les piments verts et dorés dont le raki laiteux exalte les arômes secrets et contrastés, le pilaki de haricots blancs, les mamba yildi et les borek aux épinards, le sirkali biber salatasi, qui est une salade de poivrons au vinaigre, pourquoi je donnerais tout Mozart et tout Weber. Et ce ne sont là qu'un mus chrétien sans importance, car le vrai repas n'a pas encore commencé. La légende affirme que le dîneur chez Rahim Kosova peut demeurer 2 jours à table sans goûter 2 fois au même plat. Et les légendes d'Orient n'expriment que la vérité, qui est fille aînée de la poésie. C'est alors que Rahim m'invite à une pause et m'entraîne visiter sa cave, où dorment les vins de Thrace et les cognacs perlés des rives de la mer de Marmara. Nous remontons, en compagnie de quelques bouteilles chenues, de Yakout et de Villa Dolucha, qui, de la plus jeune à la plus vénérable, jetteront leur feu sourd et dansant sur le contrepoint magique des kebabs et des fricassés d'agneaux, des rognons flambés et des brochettes les plus succulentes, qui sont, mesdames, 2 testicules. Ah ! Pourquoi donc ai-je dit au maître d'hôtel « c'est assez fatidique » ? Les viandes disparurent et, les coudes sur la table, devant les kadaïfs et les shekerpare, les croissants de lune aux amandes et les nombrils de dames, et les lèvres de belle qui sont desserts à guérir de toute misogynie, nous avons, Rahim, mes amis et moi, chauffant entre nos paumes le cognac miroitant, écouté chanter en nous le rêve d'or de Sultan Ahmed. Le lendemain, il neigeait sur la mosquée bleue et le pont de Galata. Le Bosphore brillait comme un collier de nacre.
Efendisiyim ben, ister sevişirim ister dövüşürüm, kar zarar benimdir kime ne, ister saklarım ister bölüşürüm. Bir yerde ne aynayım ben ne de perde, her şey aynı anda oluyor, zaman izafi akıl yetmiyor. Fark değilsin ama görmüyorsun kanatların var, ama
4 heures soupatoires. Une après-midi de fin d'hiver, éblouissante et glaciale. J'ai traversé la combe Lavaux, avec ses pans de rochers rouilles et l'admirable pointe sèche de ses arbres nus pétrifiés par le givre. Sur les versants de la côte, des fumées s'élevaient toutes droites des tas de sarments que brûlent les vignerons. Le Pays Bas, c'est le nom que donnent à la plaine de Saône les gens d'ici, s'étendait jusqu'au Revermont dans un scintillement presque douloureux. C'est la lumière d'une Bourgogne un peu sibérienne, quand le mercure du thermomètre accroché dehors à la porte du cellier s'immobilise entre -10 et -15. On sait que cela ne peut durer, la sève déjà frémit au cœur des cèpes. C'est la saison d'explorer les combes et de s'égarer dans la vallée de l'Ouche à celle du Rouen, parmi les mamelons et les escarpements de ce que, sur un ton de fierté malicieuse, l'homme de la côte appelle la montagne. À l'horizon, vers le nord, le relief évasé du plein de Suzanne exhale une brume très fine, comme une haleine de songe. J'ai dépassé Chambœuf, qui est un village mélancolique parce que la vigne semble l'avoir oublié. J'évoque la châtelaine de Vergy, ses amours trahis, et comme il suffit de rêver pour que surgissent les lieux où sont nées les légendes, voici dressée devant moi la butte au sommet de laquelle cette amoureuse des premiers âges du roman se lamente encore, entre les ruines de son manoir démantelé. Ce n'est pas, aujourd'hui cependant, la belle châtelaine, celle qui mère et compagne et amie, que je vais rencontrer, mais la boulangère obèse aux yeux lourds qui tient boutique à l'étang Vergy. Une minutieuse sonnette grêle teinte quand je pousse la porte. Il fait sombre, un poil gras de suie ronronne vaguement. Sur le comptoir, des verres sales moisissent et les pains alignés sur une étagère ont un air de vieux tromblon. Ceci est une épicerie, tabac, boulangerie, café, salon de coiffure qui mérite un détour d'un siècle. Je m'assieds sur une chaise boiteuse, les coudes entre les ronds de verre sur la table. Il fait tout de même un peu moins froid que dehors. Un raclement de savate préhistorique et une voix plus rauque que celle d'Armstrong.
« Ce sera quoi? Une omelette ?»
J'ai répondu « D'accord, avec du vin bouché si possible. » Une demi-heure de silence, ponctuée par 3 toussottements de fourneau. Baveuse à souhait l'omelette. Et le vin, oh le vin! Imaginez un velours d'un grenat subtilement moiré, quelque chose de caressant et de robuste, une vision de beauté lointaine et violente. Eh bien oui, la châtelaine de Vergy, le bouquet de ses amours perdus, le souvenir d'un baiser pulpeux et secret, tout cela qui, je le confesse, tient de la poésie la moins digne d'estime. Tout cela s'empare de moi dans cette estaminet sordide, et la boulangère, épicière, coiffeuse, que je ne reconnais plus dans la pénombre, me chuchote à l'oreille d'une voix suavement rajeunie que le filtre auquel je goûte, c'est un moret des monts luisants.
Thank you.
d'un bistrot lointain. Je vous écris d'un bistrot lointain. Michaud nous écrivait d'un pays lointain, qui ressemblait comme un frère à notre monde intérieur, étrange et bouleversant à force d'intimité. C'est aussi parfois le cas du bistrot d'être bouleversant d'intimité. C'est alors comme des retrouvailles inimaginables avec un univers amniotique dont nous pensions être à jamais privés. Je suis retournée dans cet estaminet de Paris, dont l'arrière-salle est décorée de fresques naïves qui vous entourent de contes d'enfance aux teintes passées. La sciure de bois du matin laisse un souvenir de feutrine sous les pas. La vie soudain devient facile et rêveuse. On passerait là d'infinis après-midi, les coudes sur la table de tilleul verni, dans une ambiance méditative et simple à laquelle, pourtant, le quartier, c'est le 6e arrondissement, n'invite pas au premier abord. Mais Paris se retire, ou plutôt, vous vous retirez de lui. Le voyage a lieu sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est tout à coup dans une petite salle d'auberge vieillotte du Blaisois que vous vous retrouvez. Quelque part entre Amboise et la Sologne du Grand Maulne. Cette longue fille blonde qui penche la tête sur son livre, là, dans le coin, ressemble comme une sœur à Yvonne de Galais, mais vous n'oserez jamais le lui dire. Elle rêve, elle aussi, et oublie de tourner les pages. Un peu de rose, d'une délicatesse translucide, affleure à ses joues qui possèdent encore la rondeur de l'enfance. On vivrait là 1000 ans sans vieillir. Le vieux garçon de café, qui traîne discrètement ses pieds plats entre les pieds galbés des chaises, sourit avec modestie en vous recommandant son petit sauvignon de mélan. La pureté tourangelle de son parler vous ravit. Il vous raconte en confidence qu'il est né à Loches, et vous vous dites mélancoliquement que c'est là, sans doute, au pied du donjon redoutable et du portail de Saint-Ours, qu'il serait urgent d'aller cueillir la destinée. Le sauvignon glisse en vous sa verdeur dorée, qui confère au temps qui passe une qualité presque d'éternité. La jeune fille se lève en soupirant, vous frôle comme un elfe avant de disparaître. À la table qu'elle occupait, le livre abandonné se referme tout seul. Et sur la page de couverture, qu'éclaire un rayon de soleil tombé d'une lucarne de verre mat, vous lisez à l'envers le titre et le nom de l'auteur, Alain Fournier, Le Grand Maulne. Alors, vous vous levez à votre tour et vous marchez dans Paris.
また来る夏の日の最初の午後には私と太陽はまた砂浜
Et la poésie alors, consacrée aujourd'hui tout entièrement au Conte bleu du vin, un recueil de Jean-Claude Pirotte. Vous avez entendu Abîme, Corne d'or, 4 heures soupatoires et Un bistrot lointain. Tout ceci tiré, je le répète, du recueil Les Contes bleus du vin de Jean-Claude Pirotte. Et que dire d'autre que santé pour clore cet épisode. Au plaisir.